les chroniques Road Movies Ophic du professeur Rosemini.
Well, here we are on the road.
Yeah, that's where we are, all right.
Tous les dimanches à 11h30 sur le 888.
Survey some only 304 for more.
Et sur radiogrenouille.com.
Par le fait qu'il valorise des espaces qu'on pourrait qualifier de quelconques, par la multiplication de plans et de séquences très peu narratives, par le fait que les films qu'il propose se situent en général à l'époque contemporaine, le road movie interroge plus que d'autres genres la frontière entre la fiction et le documentaire et, on pourrait dire, entre l'art et la vie. Je voudrais évoquer aujourd'hui un film qui pose ces questions-là de manière particulièrement aiguë, un film qui s'appelle Double Bind et qui a été réalisé en 1992 par Greg Shepard et par Sophie Kahl.
I met him in a bar in December 1989. I was in New York for 2 days on my way from Mexico to Paris. He offered me a place to stay. Upon accepting, he handed me the address.
Alors on sait que le parcours de Sophie Kahl est un parcours artistique qui commence au milieu des années 70 et qui consiste, pour aller vite, avec des supports très différents, à faire de sa propre vie une œuvre d'art, avec des œuvres comme les filatures parisiennes, l'hôtel, donc ça c'est des œuvres du début de sa carrière, et puis plus récemment des œuvres comme Rachel et Monique ou Prenez soin de vous. Alors ce qui caractérise donc le travail de Sophie Kahl, c'est la multiplication des supports, des médias, et l'entremêlement permanent du vrai, du faux, et puis de l'intime et du public. Alors, ce n'est pas un hasard si le seul long métrage qu'elle a réalisé à ce jour, c'est justement un film qui prend la forme du road movie, puisque Double Bind est une variation sur le thème du couple sur la route, puisque le film tourne autour d'une dialectique entre la rupture amoureuse et la réconciliation. Un film donc qui va amener les deux amoureux, donc les deux co-réalisateurs du film aussi, de New York en Californie, tous les deux dotés d'une petite caméra avec laquelle ils se filment ou bien ils se filment l'un l'autre. Et à cet égard, alors cette variation sur le couple, il y a une redondance d'une expression dans le film qui est « No sex last night ». D'ailleurs, le film est parfois connu sous ce titre-là. Et alors, le « No sex last night », il peut être peut-être vu déjà comme une allusion à l'impuissance de Clyde Barrow dans « Bonnie and Clyde » d'Arthur Penn. Impuissance d'ailleurs qui avait été inventée par les scénaristes. Et voilà, donc on voit déjà comment, par cette allusion à l'absence de sexualité, le film s'inscrit une série de clins d'œil au cinéma et au road movie en particulier. C'est un film donc qui a un statut assez complexe, comme souvent les œuvres de Sophie Kahl. C'est à la fois un long métrage, qu'on peut comparer à cet égard à tous les autres longs métrages, mais c'est aussi un film familial, un film privé, un film intime. C'est aussi un film qui peut relever davantage de l'art vidéo que du cinéma dans son sens traditionnel. Et puis c'est aussi donc un regard, une mise en abîme du cinéma et en l'occurrence du road movie.
She wants to go to Miami to meet my father. What do? I can't imagine being in the same room with him. But he shouldn't get away with calling me a bastard any longer. I'm just afraid to confront him. I don't need any more setbacks now.
Le film notamment présente l'intérêt de révéler la manière dont nos vies, celle de Sophie Kahl mais la nôtre aussi bien sûr, nos vies sont imprégnées par le cinéma, notamment les voyages, notre manière de voyager. On sait que quand on voyage dans un espace, eh bien, ça réactive des clichés, des poncifs et que nous projetons sur la réalité des images toutes faites. Que les images toutes faites que nous en avons et qui nous viennent de notre culture, des médias et puis beaucoup, bien sûr, pour nous, du cinéma. D'ailleurs, on sait à cet égard que le travail de Christian Boltanski, notamment le travail qu'il faisait au début, a influencé le parcours de Sophie Kahl. Et Boltanski est aussi quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur cette façon dont les images toutes faites conditionnent notre vision de la réalité. Alors justement, si on le regarde dans son détail, Double Bind mobilise un certain nombre de clichés qu'on retrouve dans beaucoup de road movies et qui sont attachés à ce genre. Par exemple, la serveuse fantasque. Hein, dans beaucoup de road movies, on fait un arrêt dans un snack, dans un motel où il y a une serveuse un peu bizarre. Et bien là, comme par hasard, dans ce film qui est d'une certaine manière un documentaire, on tombe sur la serveuse fantasque. Il y a les chevaux au vent des personnages, puisque la Cadillac dans laquelle ils se déplacent est décapotable. Il y a l'arrêt sur la plage, il y a le fait que les personnages, en avançant dans l'espace, avancent dans le temps aussi, puisqu'ils évoquent des souvenirs d'enfance. Hein. Je sais pas, et Sophie Calle parle beaucoup de leur enfance. Il y a bien sûr la séquence de l'autostoppeur, qui est difficilement évitable aussi dans un road movie. Il y a le fait que la voiture est arrêtée par un policier. Et là d'ailleurs, c'est assez amusant, puisque Sophie Calle dit au policier « Je suis ravi, vous êtes mon premier flic texan ». Fin de citation. Et puis, alors, ils vont aussi passer dans des espaces mythiques, notamment, il y a un passage, là aussi, un petit peu obligé, à Monument Valley, qui est une référence, alors, à la fois, bien sûr, au cinéma de John Ford, et puis à Easy Rider, qui rend hommage au cinéma de John Ford, et puis à Baudrillard aussi. Baudrillard qui, sur les routes de l'Amérique, notamment à Monument Valley, réfléchit justement sur cette manière dont les images transforment la réalité et transforment d'une certaine manière la réalité en simulacre et en artefact. Il y a aussi, alors, un classique du road movie, des références à ce qu'on pourrait appeler la contre-culture. À un moment, nos deux héros, si j'ose m'exprimer ainsi, rendent visite à Suzanne Rothenberg et à Bruce Norman. Bruce Norman qui est un artiste, qui était notamment un artiste performeur, donc proche de la contre-culture. Il s'arrête aussi au fameux Cadillac Ranch, hein, donc c'est une œuvre in situ qui est installée dans le désert avec 6 Cadillacs qui sont plantés en fait dans le sol, hein, qui ont été plantés dans le sol en 1974 par 3 artistes. Et là, avec cette œuvre, le Cadillac Ranch auquel il rend hommage, on est vraiment dans le détournement ironique des symboles de l'Amérique, bien sûr, puisque là, la voiture qui est censée aller vite et qui est censée être conquérante, eh bien, elle est plantée. Et puis, elle est morte aussi d'une certaine manière. Donc, il y a un aspect de pierre tombale. Et le Cadillac Ranch, c'est aussi une méditation sur la mort qui renvoie à la fois à un thème central du road movie, puisque je l'ai déjà dit dans d'autres chroniques, le road movie est un genre qui est sans cesse hanté par la mort. Et puis, la mort qui est aussi un thème de Double Bind du film de Sophie Calle et Greg Shepard, puisque le film est dédié à Hervé Guibert, qui était en fait mort du sida juste quand le film a commencé à être fait. Et d'ailleurs, le film commence par l'enterrement fictif d'Hervé Guibert par Sophie Calle.
Even if this is going to be a disaster, we'll go. At least far enough to symbolically bury my friend Hervé by the sea. I didn't want to wait in Paris for him to die. Living was my way of believing Hervé would live. He died while I was in the plane, Friday, December 27. I wasn't with him and won't be with him next Friday for his funeral.
Notre classique du road movie qui est repris de manière assez intéressante dans le film, c'est le fait que le véhicule soit traité comme un personnage. Alors là, souvent, c'est assez implicite, en fait, alors qu'ici, c'est explicite, puisque Sophie Calle va même être jalouse de la Cadillac. Elle trouve que Greg Shepard s'occupe plus de la voiture que d'elle-même. Et elle le dit à un moment, elle dit « Ses premiers mots tendres sont pour la voiture ». D'ailleurs, quand finalement, il se marie à Las Vegas dans un drive-in, on se demande si Shepard épouse Sophie Calle ou s'il n'épouse pas, finalement, la voiture elle-même. Alors, finalement, par son côté un petit peu bricolé, par le fait que le film dévoile, ce qui est bien sûr une transgression du cinéma classique, ces processus de fabrication, hein, puisqu'on voit les personnages se filmer, etc. On sait qu'on est dans le film. Par aussi ses négligences techniques, par son inventivité aussi, par son inventivité formelle, et bien Double Bind, finalement, il semble nous inviter à prendre nous-mêmes une caméra et à transformer notre prochain trajet en voiture en road movie. Et à cet égard, je voudrais mettre ce film en perspective avec des textes très anciens, par rapport en tout cas à ce film, des textes de Nietzsche, qu'on va trouver dans Humain, trop humain, et plus spécialement dans le chapitre qui s'appelle « De l'âme des artistes et des écrivains », auquel je renvoie l'auditeur. Et dans ce passage, Nietzsche dénonce le mythe de l'inspiration. En fait, selon lui, le mythe de l'inspiration servirait à la fois les intérêts des spectateurs et des artistes. Alors, les intérêts des spectateurs, il explique ça dans le chapitre 162, où il dit que finalement, quand on voit, par exemple, une œuvre d'art géniale, on se dit, elle est tellement géniale que je n'aurais pas pu la faire, puisque L'individu qu'il a créé a été lui-même inspiré par les muses. Je n'ai pas eu cette chance, donc je n'ai pas finalement à rivaliser. Et donc ça nous dédouane, justement, la théorie du génie nous dédouanerait du fait de ne pas nous-mêmes être créatifs et passer à l'action. C'est pour ça d'ailleurs que dans le paragraphe 145, Nietzsche explique que l'artiste masque les étapes préparatoires et masque les hésitations, justement pour donner cette illusion d'une création immédiate, d'une création géniale, d'une création dictée par les muses. Je renvoie aussi au texte 155 qui s'appelle justement « Croyance à l'inspiration » où là aussi donc Nietzsche explore les dessous de ce mythe. Et en fait, Nietzsche défend au contraire l'idée d'un art qui serait lié à ce qu'il appelle une conscience artisanale, avec cette idée d'un travail dont tout le monde, d'une certaine manière, serait capable, à condition de s'y mettre, d'en avoir la volonté et d'avoir de la suite dans les idées, finalement. Suite dans les idées qu'on peut reconnaître à Sophie Kahl, d'ailleurs. Je cite Nietzsche dans le texte 162 de Humain trop humain. Voilà ce qu'il écrit. « On admire tout ce qui est achevé, parfait. On sous-estime toute chose en train de se faire. » Or, personne ne peut voir dans l'œuvre de l'artiste comment elle s'est faite. C'est là son avantage, car partout où l'on peut observer une genèse, on est quelque peu refroidi. Fin de citation. On est refroidi, et c'est vrai que l'art de Sophie Kahl, bien sûr, est un art plutôt refroidi. Et je renvoie donc l'auditeur aussi au texte 163, donc qui suit le précédent, dans lequel, en fait, Nietzsche donne une méthode pour devenir un bon écrivain. Et on pourrait presque le réécrire aujourd'hui en proposant une méthode proche de ce que propose Sophie Kahl pour devenir un cinéaste et un auteur de road movie. Donc finalement, Double Bind est intéressant aussi parce que c'est à la fois une œuvre, bien sûr, mais c'est aussi une œuvre qui, en même temps, nous indique une méthode pour nous mettre nous-mêmes à créer.
Les chroniques road movie-sophiques du professeur Rosemini.
Well, here we are on the road.
Yeah, that's where we are, all right.
Tous les dimanches à 11h30 sur le 888.
Surveys are only free all for the war.
Et sur radiogrenou.com.